Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. Tenida, page 32, Daf Lamed Bet. Bonne écoute et bon limoud.
Alors la Gemara répond, Rabbi Meir, il s'agit de Rabbi Meir, de Tania. Comme on a appris dans une Braïta, cette Braïta va montrer que Rabbi Meir tient compte de risques qui sont des risques rares et minoritaires. Katan ou Ktana, un garçon qui n'est pas bar mitzvah ou une fille qui n'est pas bat mitzvah. La choltzin ou la miyadmin. Dans le cas où ils sont en situation, l'un et l'autre, de devoir se marier ou bien de répudier. Il s'agit du problème de Yiboum et de Khalitza, c'est-à-dire un frère se marie et il meurt sans enfant. La Torah a prévu que la veuve doit se remarier avec un autre frère. Que se passe-t-il si le frère survivant est mineur ou si la femme qui est veuve et qui est sans enfant est mineure? C'est de cela dont on parle. Et la Braïta dit, la Choltzin ou la Miyadmin, ni on ne fait la Khalitza, c'est-à-dire un refus de mariage de la part du frère, de l'homme Miyadmin, ni il ne peut l'épouser. Dit vrai Rabbi Meir. C'est l'opinion de Rabbi Meir. Amoulol Rabbi Meir. Ils ont dit à Rabbi Meir, ils, c'est-à-dire les autres Chachamim, Yafé Amarta chez En Choltzin, tu as eu raison de dire qu'on ne fait pas la Khalitza. Pourquoi? Parce que dans le passage consacré à la Khalitza, Ish Katouv Aparasha, le terme de Ish qui veut dire un homme majeur, a priori, est inscrit dans la paracha. Et en ce qui concerne la femme, ou Makshinan Ishaleish, on fait une comparaison, un hekesh entre la femme et l'homme, c'est-à-dire de même qu'on exige que pour la Khalitza, l'homme, le futur mari, le frère survivant soit majeur, on demande également que la veuve soit majeure. Mais pour quelle raison ne ferait-on pas le Yiboum? Sous-entendu, il n'y a pas un verset qui nous enseigne que ceux qui ne sont pas bar ou bat mitzvah ne peuvent pas faire le Yiboum. Amar lahem, Rabbi Meir leur a répondu, Katan, pourquoi est-ce que je ne veux pas qu'un frère mineur fasse le Yiboum? Shemeim matse saris, de peur qu'il ne s'avère être incapable d'avoir des enfants. Saris, c'est quelqu'un qui est incapable d'avoir des enfants, biologiquement, donc il est totalement stérile. Ktana shematimatse ailonit. Et pour la veuve, c'est les mineurs, de peur qu'elle ne se révèle incapable d'avoir des enfants également, ce qu'on appelle ailonit. Le nimtseu pogain berva shelobim kom mitzvah. Et si tel est le cas, dans ce cas-là, ce remariage entre le frère survivant et la veuve est un mariage qui fait partie des catégories strictement interdites par la Torah sous le terme général de erva, c'est-à-dire d'inceste ou de mariage interdit, chez l'homme comme mitzvah, alors que la mitzvah ne peut pas être faite. En effet, la Torah dit clairement que ce remariage de la veuve avec un frère survivant est destiné à donner une descendance, en quelque sorte, au frère qui est niftar, qui est décédé. Et eux sont biologiquement incapables, si le mari est saris ou si la femme est aïdonite, incapables d'avoir des enfants. Et donc, il n'y a pas de mitzvah, et donc, c'est une interdiction grave. La Gemara dit « Verabanan ». Et alors, comment se fait-il que les Chachamim ne disent pas la même chose? Les Chachamim disent « Zil betar ou balektanim ». On peut aller d'après la majorité des garçons mineurs, « Verob tanim, l'absarissiminu ». Et la majorité, on pourrait même dire la grande majorité des garçons mineurs, ne seront pas ultérieurement des hommes stériles. « Zil betar ou balektanot ». Suit la majorité des femmes mineures, le rov ktanot la vailonit ninou. Et la majorité des filles qui sont mineures ne vont pas être à l'âge adulte des femmes incapables de procréer. Autrement dit, les Chachamim suivent la loi de la majorité, tandis que Rabbi Meir tient compte d'un risque qui est un risque réduit à mi-août, à un risque minoritaire. La Gemara n'est pas d'accord avec cette comparaison que fait Rav Sheshet entre le cas de Rabbi Meir et notre Mishnah. Emma, quand est-ce que tu peux dire de Shamat l'El Rabbi Meir que tu as entendu que Rabbi Meir tenait compte d'une minorité, Miuta de Shriach, lorsque c'est une miuté qui est fréquente, ou relativement fréquente? On considère donc que les mineurs qui n'auront pas la possibilité d'avoir des enfants représentent une minorité fréquente. Avant Miuta de la Shriach, mais un cas de minorité qui est rare, sous-entendu celui de bébé qui, dès la naissance, vont avoir un écoulement sanguin, Nishmaratle, est-ce que tu as entendu dire, c'est-à-dire est-ce que tu as entendu dire par Rabbi Meir qui tenait compte d'un risque aussi réduit que le risque qu'un bébé de sexe féminin ait un écoulement sanguin juste à sa naissance? Elle va répondre à Miniuta de Shriachou. En vérité, cette occurrence, elle est relativement fréquente. Évidemment, bien entendu, elle s'appelle Miout. C'est un cas minoritaire, mais il est relativement fréquent. De Tania. En effet, une braïta enseignée. Amar Rabbi Yossi a raconté Masebe Enboul. Il arrivait dans une localité qui s'appelait Enboul, Vidbilou Akodem Leima, où on a amené au mikvé le bébé de la petite fille qui était née avant même que sa mère n'y aille. Nous savons que les mères ne peuvent aller au mikvé qu'après un nombre de jours qui est de 14 au minimum lorsqu'elles ont donné naissance à une fille, voire le début de la parashat Tazria dans Vayikra, alors que cette petite fille, si elle a eu un écoulement sanguin le premier, le deuxième ou le troisième jour, par exemple après sa naissance, on attend 7 jours et ensuite on peut la mettre au mikvé puisqu'elle a un statut de Nida. Et donc Rabbi aussi témoigne qu'à Edboul, il y a eu un cas comme cela, Vidbilou Akodem Lima. On l'a amené au mikvé avant que sa mère ne puisse y aller. Dama Rabbi. Et Rabbi, Rabbeinu Akadosh lui-même a dit aussi, Masim Bet Shearim. Il arrivait dans la localité de Bet Shearim, Vidbilou Akodem Lima, où la petite fille a été amenée au mikvé avant que sa mère ne puisse y aller. Dama Rabbi Yosef. Et dans des générations plus proches de l'Agmara, puisque Rabbi Yosef est un Amora et non pas un Tana, il a également rapporté Maaseb Pumbedita. Il arrivait dans la ville de Pumbedita, Vidbilou Akodem Leima, où on a amené au mikvé une petite fille qui était née et qui avait eu un écoulement sanguin, donc qui au bout de 7 jours devait aller au mikvé avant que sa mère n'y aille. Donc apparemment, ces cas ne sont pas aussi rares que cela. L'Agmara dit Bishlama de Rabbi Yosef Rabbi Mishum Trumater et Israël. L'Agmara dit je comprends bien pourquoi on a amené au mikvé les petites filles à l'époque de Rabbi Yosef ou à l'époque de Rabbi. En effet, ces Chachamim étaient en Israël, et c'est à cause de Trouma Teret Israël, de la Terouma, du prélèvement qui est fait pour les Kohanim en Eret Israël, et qui ne doit pas être en contact avec une impureté. Et là, de Rav Yosef, la manie. Mais en ce qui concerne le cas rapporté par Rav Yosef, et qui s'y situait à Pumbedita, qui est une ville à l'extérieur d'Israël, qu'avons-nous besoin de l'amener au mikvé? Mais Amar Shmuel, pourtant Shmuel... En terumat rutsalar et sasura, et là, bemi shetumayot a migufo. La teruma que les rachamim ont instituée en dehors d'Israël, et c'est le cas pour Babylone, la Babylonie, donc pour Pumbedita, elle n'est interdite que bemi shetumayot a migufo. Si c'est quelqu'un dont la touma émane de son propre corps, ce qui serait effectivement le cas du Nida, mais on précise, l'anem il est vachila. Ceci n'est dit que pour l'interdiction de le consommer. Aval bin giyalo. Mais, le toucher, les Chachamim n'ont pas institué qu'en touchant une telle terouma de Rutzlaret, ça la rende impure. Et donc, étant donné que le bébé ne va sûrement pas manger la terouma, quel est le risque? Amar Marzoutra, là-dessus Marzoutra a répondu, la Nitzrecha est là le Socha Shemen Sel Terouma. En vérité, on a été amené, il a été nécessaire de l'amener au mikvé que à cause de l'onction avec de l'huile de terouma. C'est-à-dire que tant qu'elle était impure, il était interdit de l'enduire avec de l'huile de terouma. Et pour avoir le droit de l'enduire avec de l'huile de terouma, on l'a amené au mikvé. De Tania, en effet, une braïta enseigne. Alors on cite ce pasouk, et un pasouk, le lo yachalelu et kotche vene Israël et asher yarimu l'Hashem, concernant les kohanim, dont on dit ils ne devront pas rendre chol, profaner les saintetés des vene Israël qui auront été prélevées en l'honneur d'Hashem. Cette manière de s'exprimer du verset, disent les Chachamim, le rabot est assar et achoté. Ceci vient inclure non seulement celui qui consomme la trouma, mais également celui qui s'en enduit, sar, et celui qui en boit. La Gemara s'étonne, choté, la malikra, pour le fait de boire un liquide de trouma, qu'ai-je besoin d'un verset? Ch'tiya bichla l'achila. Le fait de boire est automatiquement inclus dans l'interdiction de consommer. Et là, le rabot est à sar keshoté. L'agma corrige le texte en disant, pour inclure l'interdiction de s'enduire, de l'onction, comme l'interdiction de boire. C'est donc de ce verset qu'on apprend. Velo yochalalu et kotche bene Israël. L'agma dit, vi baitema meacha. Et si tu veux, je peux d'amener un autre texte qui interdit l'onction. C'est un texte qui est extrait de Tehilim, dans le chapitre 109 de Tehilim. Le passouf dit à propos d'une certaine malédiction, Vatavou Chamaim de Kirbo, de Hashemem Batsmotav. Cette malédiction a pénétré ses entrailles comme de l'eau et ses os comme l'huile. Autrement dit, on compare le fait de boire de l'eau et le fait de s'enduire de l'huile sur ses membres qui arrivent jusqu'aux os. Et cette comparaison fait que l'interdiction de boire implique également l'interdiction de s'enduire. Alors, on revient maintenant à la question de la Mishnah concernant les petites filles des Koutim. Et la Gemara dit, Yahri, Bidan Mami, puisqu'on a dit qu'on tenait compte de l'avis de Rabbi Meir qui prend les risques minoritaires comme étant des risques réels, et qu'il y a une minorité relativement importante de petites filles qui ont des écoulements sanguins. Yahri, s'il en est ainsi, Bidan Mami, nos petites filles également devraient être Nidot lorsqu'elles ont des écoulements. La Gemara répond. Et la réponse d'Agmara ne peut être comprise que si l'on a bien en tête le fait que les Koutim rejettent les enseignements herméneutiques, c'est-à-dire la manière dont la Torah orale interprète la Torah écrite. Et voilà ce que dit l'Agmara. Ana, nous, les Béné Israël, de Darshinan, Isha, Veisha, qui interprétons le sens d'un verset suivant qu'un mot est écrit Isha sans vav, et qu'il est écrit Veisha avec un vav, ce vav supplémentaire donne lieu à un enseignement. C'est ce qu'on appelle ici Isha Veisha. Et le fait qu'il y a marqué Veisha dans les dinim de Nida, le vav supplémentaire, nous l'avons appris comme venant nous dire que même un bébé qui a un écoulement de type Nida sera impur. Et puisque nous avons cet enseignement, Vechichazian, lorsque nos petites filles, nos bébés, ont un saignement, Mafreshelou, on les sépare. C'est-à-dire qu'on leur interdit d'être en contact avec des terumotes. La gazrou beu rabanan. Les chachamim n'ont pas systématiquement rendu impures nos filles, puisque lorsqu'il y a effectivement une impureté, on fait attention. Inou, tandis qu'eux, c'est-à-dire les koutim, et la darché, isha veisha, qui ne tiennent pas compte de l'enseignement dû à la présence d'un vav supplémentaire, et donc qui pensent isha uniquement une femme majeure, et il n'inclut pas dans la Touma de Nida les bébés. Vechichazian, et lorsque leurs nourrissons ont des saignements, là, Mafrecheleu, il ne les sépare pas des choses saintes ou de la Terouma parce qu'il considère qu'elles ne sont pas impures. Gazrou, Vehu, Rabanan, les Chachamim ont pris un décret considérant systématiquement leur petite fille comme étant Nidot. Maintenant, la Gemara s'interroge sur ce que c'est Isha Veisha, Mai Isha Veisha. C'est quoi Isha et Veisha? Netanya, en effet, il était enseigné dans une Braïta. Isha. C'est-à-dire un verset qui dit la chose suivante. Isha ki azuv zov dama. Dam yezova bive sara. Lorsqu'une femme aura un écoulement sanguin, ce sang dans sa chair la rendra nida. Hein, je résume la traduction du passé. En yela Isha. Ceci ne n'inclurait qu'une femme majeure. Tinoket batur mechad menida minaim. Un bébé qui est né le jour même, qu'il puisse devenir nida éventuellement. Minaim, d'où est-ce que je le sais? Talmud Lomar, la Torah enseigne ve isha, et une femme. Et le vav supplémentaire vient inclure la possibilité pour un bébé même né le jour en question, de devenir Nida si elle a un écoulement. Alma a dit, Alma, kin rabekra batyom echad merabe. Est-ce que ça veut dire que lorsque le verset avec Isha et Veisha inclut une catégorie supplémentaire, cela inclut même une petite fille du jour, verminu, en objecte, une autre braïta, Isha. Alors c'est un autre pasouk. C'est un passage qui lui est dans le 15e chapitre de Vaïkra qui dit « Ve'isha asher iskavish ota shichadzera » Lorsqu'une femme aura été en relation avec un homme qui l'aura ensemencé, « Ve'rachatsu bamaim etamu adayarev » Ils se laveront dans l'eau, ils iront mikvé en fait, et ils seront impurs jusqu'au soir. Donc, il est marqué dans ce pasouk, Veisha Asher Iskavi. Et alors, la Braïta dit, Isha, c'est-à-dire, s'il n'y avait marqué que Isha, et ni la Isha, je n'aurais conclu que c'était valable que pour une femme majeure. Kinoket bat shalosh shanim yom echad lebi'a minaim. D'où est-ce que je sais que cette impureté due au contact physique entre l'homme et la femme s'applique également à une petite fille qui a 3 ans accomplie, littéralement 3 ans et un jour, Talmud Lomar, le verset dit Veisha, et une femme. Donc l'objection de la Gemara est de dire que le Vav de Veisha de notre Passouk n'inclut que une petite fille qui a quand même déjà 3 ans, et ici on voudrait inclure un bébé né le jour même. Amar Rava. Rava a répondu Hilcheta Ninur. En vérité, ce sont des halachot, le Moshe Missinaï, c'est la loi orale qui a statué que la Toum'a de Nida pouvait affecter un bébé qui vient de naître, si cette petite fille a un écoulement, mais que la Toum'a due à une relation physique ne concerne qu'une petite fille qui a au moins 3 ans. Il chetaninu. La Fechinu Rabbanan a créé. Et les Chachamim se sont appuyés sur des versets de la Torah pour leur trouver une source ou une allusion dans la Torah. Mais on ne peut pas contester ou discuter sur le fait que l'un des deux Vav, le deuxième, inclut que les petites filles qui ont déjà 3 ans, alors que le premier inclut des bébés qui viennent de naître. La Gemara demande à Haïkera ve Heikhata. Quel est le verset qui est considéré comme un verset de la Torah et quel est le verset qui est considéré comme une halakha orale? Il est Mabat Yomechad Ilchata. Si tu veux me dire que c'est une halakha le Moshe Missinaï, donc quelque chose qui est traditionnel et qui ne peut pas être discuté, qu'une fille d'un jour, elle peut devenir Nida, Bat Shalosh Shanim Yom Echad, Kra, et que c'est le fait que ce n'est qu'à l'âge de 3 ans qu'une fille devient impure par un contact physique, ça, cela vient du verset, Kra Stam Active, pourtant le verset, il est écrit d'une manière très vague. Et la Bat Shalosh Shanim Yom Echad Ilchata. Il est plus logique de dire que c'est un enseignement oral indiscutable que la relation physique ne rend impure une fille que si elle a 3 ans. Mais c'est par contre le verset de Veisha, le premier cité, qui vient nous dire que dès le jour de sa naissance, un bébé qui a un écoulement devient Nida. L'Agma dit, à partir du moment où il y a une halakha qui nous dit que une petite fille de 3 ans devient impure en cas de relation physique, qu'ai-je besoin d'un verset à ce sujet? Pourquoi avoir deux enseignements, en quelque sorte?
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
L'Allemand répond qu'en fait, le verset Veisha, le Vav supplémentaire de Veisha, il a une autre fonction. Sa véritable fonction, c'est le Ma'ute Ishme Oden. C'est pour dire qu'un homme ne devient pas impur lorsqu'il a un écoulement de couleur rouge. On sait en effet, on a déjà vu dans les chapitres précédents, qu'un homme qui a un écoulement de type Shirvat Zera, séminal, devient impur, ou encore, dans certains cas, s'il y a d'autres écoulements de couleur blanchâtre, continus et qui se font sans érection, il devient Zav. Et ici, le Veisha, lorsqu'on dit « mais une femme qui aurait eu un écoulement sanguin, etc., deviendra impure », c'est pour dire « la femme devient impure par des écoulements rougeâtres, l'homme ne peut pas devenir impur par un écoulement rougeâtre ». On verra plus loin encore un autre verset qui, à son tour, vient exclure les hommes d'impureté due à des écoulements rougeâtres, et la Gemara expliquera pourquoi il y a deux versets qui viennent dire que l'homme n'est jamais impur lorsqu'il y a un écoulement de couleur rouge. La Gemara dit là, Netanya, pourtant on a appris dans une braïta, Isha, toujours le même verset du chapitre 15 de Vayikra, Isha, lorsqu'une femme aura eu du sang pendant de nombreux jours en dehors de sa période de Nida, il s'agit de l'introduction à la notion de Zava. Là-bas c'est marqué Eni et la Isha. Ceci ne concerne qu'une femme majeure, Bat Asara Yamin Neziva Minaim. D'où sait-on qu'une petite fille de 10 jours peut déjà être Zava? Anulomar Ve Isha. Le verset dit Ve Isha. Alors pourquoi est-ce qu'ici on nous parle d'une petite fille de 10 jours? Pour une raison mathématiquement simple, la notion de Zava, qui a peut-être déjà été exposée dans les chapitres précédents, je la reprends rapidement. Là encore, nous donnons des halakhot théoriques de la Torah. En aucun cas, on ne peut en déduire de halakha concrète aujourd'hui, où les rachamim ont institué que tout écoulement sanguin d'une femme lui donne un statut de Zava, c'est-à-dire qu'elle ne pourra aller au mikvé qu'après une interruption de 7 jours francs, sans aucun écoulement. Mais d'après la Torah, il n'en est rien. Un premier écoulement, et en règle générale, les écoulements menstruels des femmes, ouvrent, comme on l'a déjà dit, une période de 7 jours pendant laquelle elle est impure, quelle qu'ait été la durée du flux sanguin. Et puis, au bout de ces 7 jours, s'il n'y a plus d'écoulement, elle peut aller au mikvé. Et donc, pendant ces 7 jours, elle a un statut de nida. Par contre, si après ces 7 jours, elle continue à saigner, donc, par exemple, les 3 jours suivants, le 8e, le 9e et le 10e, donc s'il y a 3 saignements, le 8e, le 9e et le 10e jour, après qu'elle ait commencé sa période de nida, elle n'a plus le statut de nida, mais le statut de zava, plus précisément Zavagdola, parce qu'il y a 3 jours, ça s'appelle Zavagdola, et à ce moment-là, elle ne peut retourner au mikvé et redevenir pure qu'après que 7 jours se soient écoulés sans aucun écoulement. Et donc, une petite fille, si le jour même de sa naissance, elle a un écoulement, elle deviendra Nida pour 7 jours, et si le 8e, le 9e, le 10e jour, elle continue à saigner ou avoir des petits saignements, 3 jours consécutifs, le 10e jour, elle pourrait devenir Zava. Et à ce moment-là, elle ne pourra aller au mikvé qu'après 7 jours d'interruption totale. C'est pourquoi on parle ici de 10 jours pour un bébé. Donc je reprends. Eli El Aïcha. Ce verset ne parle pour Zava Gdola, pour une femme qui va devenir Zava, que d'une femme majeure. Batasara Yamim Ziva Minayin. D'où est-ce que je sais que même une fille de 10 jours pourrait être Zava? Talmud Lomar Veisha. Le verset dit Veisha. Donc le Vav ici vient inclure, encore une fois, le cas d'un bébé. Elle m'a dit, Lamali, qu'est-ce que j'ai besoin d'un enseignement supplémentaire? Ligmar Minida. On n'a qu'à déduire logiquement la possibilité pour un bébé de devenir Zava du fait que ce bébé a la possibilité de devenir Nida. L'Agma répond, Tsricha. Elle dit, c'était nécessaire, l'Agma a dit, c'était nécessaire d'avoir les deux versets. Voyons la logique. Le'i katav rachamana benida. Si HaKadosh Baruch Hu n'avait écrit le statut du bébé impur qu'à propos de la Nida, Hava Amina, Nida, j'aurais pensé, la Torah a considéré qu'un bébé peut être Nida, Mishum, Lechi Chazay Chadioma, Bayal Metav Shiva. Parce que lorsqu'elle a vu un 7 jours, il faut qu'elle attende 7 jours avant de pouvoir aller au mikvé. Aval Zava. Tandis que la notion de Zava, Lechi Chazay Chadioma, si elle n'a vu qu'un jour, par exemple le 8e jour, le Shomer Et Yom Keneged Yom Sagila, en respectant un jour de pureté, Kenegedium, en face d'un jour d'impureté, cela lui suffit. Et Emma, là, j'aurais dit que non, que vu que cette impureté, de ce point de vue-là, semble moindre que celle de l'anida, on ne peut pas déduire logiquement qu'elle s'applique au bébé. Je reprends parce que ces notions sont un peu délicates. C'est-à-dire que la notion de nida, encore une fois, un écoulement d'une seule goutte de sang rend la femme impure pendant 7 jours, même si elle n'a eu aucun écoulement pendant cette semaine-là. Et ce dîme s'applique à un bébé. Donc un bébé dit le premier jour il a une goutte de sang, il est impur pendant 7 jours. Il lui faut 7 jours pour pouvoir aller au mikvé. Par contre, si le 8e jour, elle a un écoulement sanguin, eh bien, elle attend le 9e jour, elle attend en quelque sorte le lendemain du 8e jour, et si le lendemain du 8e jour, le 9e jour, il n'y a aucun saignement, elle pourra immédiatement le soir aller au mikvé. C'est le principe qu'on appelle Shomeret, Yom Keneged Yom. Garder un jour, sous-entendu, pur, Keneged Yom, correspondant à un jour impur. Le même principe s'applique d'ailleurs si elle voyait le 7e jour, le 8e jour et le 9e jour, c'est-à-dire 2 jours de suite. Là aussi, elle est Shomeret, Yom Keneged Yom. Il suffit de 24 heures pour se purifier, enfin pouvoir aller au mikvé. Par contre, comme on l'a dit antérieurement, s'il y a 3 jours consécutifs, là il faut une semaine. En tout cas, le principe de Zava peut être parfois générateur d'une touma dont on se débarrasse au bout de 24 heures, bien entendu en allant au mikvé. Alors que le principe de Nida, il faut toujours une semaine au moins avant de pouvoir aller au mikvé et redevenir pur. À cause de cela, l'Agma a dit qu'on ne peut pas faire un raisonnement en disant puisqu'elle est Nida, elle va devenir aussi Zava. En effet, la notion de Zava, d'une certaine manière, est moins stricte que la notion de Nida. Et la Kragma a dit Sricha. C'est-à-dire qu'il est nécessaire d'avoir un verset qui nous explique qu'un bébé est également impliqué pour la loi de Zava. L'Agma maintenant va proposer l'inverse. De dire Torah Hamana Bezava Velobaï Venida. Que la Torah n'écrive, qu'Akadosh Baruch Hu n'écrive que le statut de Zava pour un bébé, Velobaï Venida. Il n'aurait pas été nécessaire dans ce cas-là de nous dire qu'elle peut devenir Nida. Vana Yadana, je l'aurais su de moi-même, pour une raison très simple, de En Zava Belonida. Aucune femme ne peut devenir Zava, c'est-à-dire compter un huitième, un neuvième, un dixième jour, si elle n'a pas été antérieurement Nida. En effet, un premier écoulement la rend toujours Nida. Ensuite, elle compte sept jours, et si ça se poursuit le huitième, neuvième et dixième, elle peut devenir Zava. L'Agmara dit, Nachinami, cela est vrai. Si le statut de Zava existe, celui de Nida est obligatoire. Veilakra la Mali, l'Agmara dit dans ce cas-là, le verset, qu'en ai-je besoin? L'Agmara répond, Yamaute Ish Meodem. Comme elle avait répondu précédemment, pour exclure l'homme de la Touma d'un écoulement rouge. L'Agmara s'étonne. Amiatete Chadazina. On a déjà vu un verset qui disait que l'homme ne devient pas impur lorsqu'il a un écoulement rouge. L'Agmara répond, il y a deux types d'écoulements rouges dont on aurait pu penser qu'ils rendent l'homme impur. Chad, l'un, le Maute Mishikhwazera vient exclure de la matière séminale qui serait rouge. Alors ceci ne le rend pas impur. Et l'autre, c'est si carrément il saigne. Si l'homme a un saignement, il ne devient pas impur. Avant d'aborder la suite de la Gemara, il est nécessaire de donner quelques indications sur la notion de Zav pour un homme. Alors, de même que pour une femme, il y a Nida qui est un écoulement normal et Zava un écoulement normal. Pour l'homme également, il y a Shikhvatzera qui est un écoulement qui vient de matière séminale émise soit par accident de pollution nocturne, soit par érection en cas de contact physique. Et puis, il y a également un autre liquide qui peut s'écouler du même organe, donc de l'organe de reproduction, qui s'appelle Zov. Alors, la principale caractéristique qui le différencie de Shikhvatzera, c'est que c'est émis sans érection. Et précisément, lorsqu'un homme a un écoulement de Zov, il sera tamé comme un balkéri, à condition qu'il n'en ait qu'une seule fois. Dans ce cas-là, il peut aller au mikvé et il est tevulium, donc il ne touchera pas la trouma ou le kodesh jusqu'à la nuit. Mais s'il a deux écoulements le même jour ou deux jours consécutifs, il s'appelle Zav. Et le degré de touma du Zav est plus strict que celle du Balkéri, comme on le verra d'Aflamedhe. Et également, comme une Zavagdola, avant de pouvoir aller au mikvé, il doit avoir sept jours où il vérifie qu'il n'a aucun écoulement avant qu'il puisse devenir pur. D'ailleurs, on demande pour ce mikvé une exigence qui n'est pas demandée pour la Zava, c'est que ce soit Maïm Chaim, de l'eau en quelque sorte qui vient directement de source, et pas simplement l'eau d'un mikvé ordinaire. De plus, si un homme a trois écoulements en un seul jour, ou en deux jours, ou en trois jours consécutifs, il y a encore d'autres règles, notamment celle de l'obligation d'apporter un korban après le mikvé, après s'être purifié. Alors cela étant dit, la Gemara va se demander d'où viennent les dinim de Zav, de Chen et Nia Zechari. De même en ce qui concerne les hommes, c'est-à-dire le Zav. Un bébé peut-il également devenir Zav? Et la réponse est de Tania, ceci a été enseigné dans une braïta. Ish, ish. En ce qui concerne le verset qui est dans le chapitre 15 de Vayikra, c'est le deuxième passage qui dit ish, ish, qui est Zav Nivesaro. Et la Gemara dit, puis c'est marqué Ish Ish, Ma Talmud Omar Ish Ish, pourquoi le verset dit-il un homme, le rabot Tinok Ben Yom Echad, pour inclure un bébé né le jour même, c'est Umit Tamé Beziva, il peut être atteint de l'impureté de Ziva. Il vrai Rabbi Yehuda. Quelle est l'opinion de Rabbi Yehuda? Rabbi Ishmael, ben Moshe Rabbi Yochanan Ben Baroka Omer, tandis que Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan, fils de Baroka, dit En Sarir, un tel enseignement n'est pas nécessaire. Aré ou Omer, en effet, il est marqué plus loin, la Zahar, la Nekeva, en parlant de ses impuretés, pour l'homme et pour la femme, la zahar pour l'homme, kol shehu zahar, tout être de sexe masculin, sous-entendu quel que soit son âge, participe au principe de zav. Ben shehu gadol, ben shehu katan, qu'il soit majeur, qu'il soit petit. La nekeva, et pour une femme, kol shehu nekeva, tout être humain de sexe féminin, ben gdola, ben ktana, qu'elle soit majeure ou mineure, et même toute petite, inkenta matalmudomarish ish, et d'après Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan ben Broka, quelle était la nécessité d'écrire ish ish, chaque homme, dimra Torah qu'il soit mené Adam. La Torah s'exprime suivant la manière habituelle des hommes, et on a l'habitude de dire ish ish pour dire tout homme. Il ne faut rien déduire d'après lui. Alma a dit, Alma akim rabbe kra ben yomechad, me rabbe. En tout cas, on voit que lorsque on a inclus avec ish ish ou avec la zahar, on a inclus même un bébé d'un jour. Urbinu. Et là-dessus, on va objecter, comme on l'avait fait précédemment, sur un pasouk qui est différent. Ish, il s'agit du pasouk du chapitre 15, le pasouk 16, et là-bas c'est marqué ish asher yetse mimenu sikhvat zera. Un homme d'où s'échappera du sperme. En yelaïch, ceci n'applique qu'un homme, c'est-à-dire majeur. Bentesha ve shanim yom echad minaim. D'où est-ce que je sais qu'une même disposition de Tum'a s'applique à un garçon de 9 ans et un jour qui aurait émis du sperme? Talmud Lomar, ve'ish. Le verset dit ve'ish. De la même manière qu'on avait vu ve'isha, cela inclut une mineure, ici aussi ve'ish, je dis que ça inclut un garçon qui est mineur, mais seulement à partir de 9 ans et un jour. Donc il y a une contradiction par rapport à la première braïta. Amarava. Rava a répondu, ilchetanimu. Il s'agit en vérité concernant les âges à partir desquels des mineurs peuvent devenir tamé, soit en tant que zav ou soit en tant que baal keri. Il s'agit de halachot le moshe misina, et cela vient de la loi orale. Vasmechinu rabanan a créé. Les rachamim ont simplement amené des preuves ou des allusions dans les versets, mais ce n'est pas, il n'est pas nécessaire d'avoir des versets pour cela. La Gemara demande, hey, ilcheta ve'ekra, laquelle des deux lois provient d'une halacha, c'est-à-dire d'une loi orale de Moshe au Mont Sinaï, et laquelle vient du verset. Il est ma ben yomechad ilcheta. Si tu voulais me dire que c'est le principe que dès le premier jour de sa naissance, un garçon peut devenir zav, ceci vient d'une loi orale. Ou ben teshashani yomechad kra. Et que le fait que, à partir de 9 ans et un jour, lorsqu'il perd la semence, il devient impur, kra. Active, ceci ne va pas parce que le verset il parle de manière tout à fait générale, il n'y a aucune précision concernant l'âge. Et là, donc, la logique est de dire ben de chachanim yomechad ilcheta. Le fait qu'une perte séminale rend impur qu'à partir de l'âge de 9 ans et un jour, c'est une halacha, c'est un enseignement oral. Ou ben yomechad kra. Et le fait qu'il peut devenir zav dès le premier jour de sa vie, c'est le verset qui le dit avec le ish ve'ish. La Gemara dit v'chinah avil chetahi kralamani. Si cet enseignement est oral, qu'a-t-on besoin du verset? La Gemara répond d'une manière un peu symétrique à ce qui avait été dit précédemment. Le ma'ute isham iloven. Ceci vient exclure qu'une femme puisse devenir impure lorsqu'elle a un écoulement qui est blanc. Loven, il dit quelque chose qui est de couleur blanche. La Gemara dit, l'amalil mirta bisharim, de l'amalil mirta bin kevot. Pourquoi a-t-on besoin d'un verset qui nous enseigne que les lois d'impureté s'appliquent aux hommes, même lorsqu'ils sont tout juste nés, et un autre qui nous dit, l'amalil mirta bin kevot, pourquoi un autre verset qui nous apprend pour les femmes, pour les petites filles? Est-ce qu'il n'aurait été pas suffisant de l'apprendre pour l'un et de le déduire pour l'autre? La Gemara répond, les deux versets sont nécessaires. Si la Torah nous l'avait enseigné que pour les bébés de sexe masculin, j'aurais dit, c'est-à-dire les aves, qui deviennent aves dès la naissance, parce qu'ils peuvent devenir impurs par des écoulements successifs, comme si c'était des jours successifs. Autrement dit, un garçon, il a trois écoulements distincts le même jour, il devient déjà totalement impur, ou même deux écoulements distincts le même jour, il devient impur. Aval Nekevot, mais en ce qui concerne les petites filles de l'âme, Itamé ou Biriyot, Kibéyamim, pour lequel trois écoulements successifs de la même journée ne le rend pas à la Gdola. Il faut que ce soit trois jours distincts, donc c'est une Touma différente. Emma, là, j'aurais pu dire qu'une telle Touma ne s'applique pas à une fille qui vient de naître. Et donc, elle n'aurait pas les lois de Nida et de Zava sans un verset particulier. Inversement, Veikata Brahamana Binekevot. Et également, si Akadosh Baruch Hu n'avait écrit le verset que concernant les petites filles, qui deviennent Zava dès que possible à leur naissance, on aurait dit Mishum de Kamitamu Beones, parce qu'une telle impureté peut arriver même en cas de cause extérieure, par exemple un seau qui a provoqué l'écoulement, et comme l'amène Rashi, ceci vient du verset les concernant, qui dit qu'il y a Zouv, Zov, Dama, ceci inclut même le cas de Ones. Aval Zachari, mais pour les hommes, y compris les petits bébés, de là Mitameu Beones, qui ne peut pas devenir impur par une ziva qui s'écoule pour une cause extérieure. La Mishnah, la deuxième Mishnah du deuxième Pérec de Zavim, cite par exemple le fait de manger ou de boire beaucoup qui aurait provoqué un zov chez un homme ne le rend pas impur. Donc, Emma Lo, j'aurais pu dire qu'ils ne sont pas inclus les bébés dans cette Touma qui n'est pas valable en cas de honnêteté. Et la Gemara de conclure, Tricha. Donc les deux versets étaient nécessaires, aussi bien pour le bébé garçon que pour le bébé fille, l'un ne pouvant pas être déduit de l'autre. La Gemara cite ensuite le passage de la Mishnah, Koutim, Tamein, Mishkav, Tarton, Keelion. Les hommes Koutim qui sont mariés rendent impur la literie sur laquelle ils sont, ce qu'on appelle Mishkav, Tarton, comme ce qui est au-dessus. On va voir dans la Gemara de quoi il s'agit justement. Maï Mishkav, Tarton, Keelion. Que veut dire l'expression « la literie qui est en dessous d'eux » comme le « Elion », comme ce qui est au-dessus. « Il est ma de ika sara matzahot ve'ativa layum itameu lehu » Si tu veux me dire que cela vient nous enseigner que s'il y a 10 matelas, 10 literies qui sont empilées les unes sur les autres et qu'il est assise sur celle d'en haut, que toutes sont impures, y compris celle d'en dessous, « Pshita » c'est une chose évidente. « Le hadaras lehu » en effet, il les a rendus impures par la touma qu'on appelle « tumat midras », littéralement le fait de les fouler aux pieds. Le principe est que celui qui est affecté d'une toum at midras peut rendre impur tout ce qui est en dessous de lui, même s'il ne le touche pas directement, mais en particulier plusieurs couches de literie empilées. Et là, donc, c'est pour apprendre autre chose, c'est sartonos el boel mida, que ce qui est en dessous de celui qui a une relation avec une femme impure, que elionos el zav, d'un degré de touma inférieur qui est celui qui est au-dessus d'un zav. De même que ce qui est au-dessus d'un zav a uniquement le degré de touma qu'on appelle rishon touma et qui ne rend impur que les aliments et les boissons, af également tartono shel boel midas qui est en dessous de celui qui a une relation avec une femme impure, et non metame la ochrin ou mashkin n'a que ce degré d'impureté qui rend impur les aliments et les boissons. Sous-entendu, mais il n'est pas en mesure de rendre impur un homme ou des begadim ou kelim, des habits ou des ustensiles. Et l'Agma demande, Elionos el zav menalan, d'où sait-on justement que ce qui est au-dessus d'un zav n'a pas une touma stricte de rishon la touma et donc n'est pas capable de rendre impur des hommes ou des ustensiles. Et on répond parce qu'il est écrit, dirtiv, bechol anoga, bechol asheriye tartav yitma. Concernant le Zav, il est écrit dans le dixième verset du chapitre 15 de Vayikra, tout celui qui touchera tout ce qui est en dessous de lui deviendra impur.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.